Voilà, vous êtes bienvenue à cette nouvelle séance de lecture qui aura quelque chose d'un peu singulier, comme chacune des séances, vous l'aurez remarqué. Parfois on lit des textes assez longs, parfois on les traverse au galop, parfois on s'arrête un peu, parfois on les lit à peine, etc. Ça dépend beaucoup du professeur et ça dépend aussi du texte qui nous est proposé à la lecture. Alors aujourd'hui, comme vous voyez au tableau, je passerai assez rapidement, c'est un choix puisqu'on a déjà parlé beaucoup d'histoire de texte, je passerai rapidement sur l'histoire de ce texte, qui est pourtant des moments très singuliers, mais je le parcourrai dans ses grandes lignes, sans le lire dans le détail, et je m'attacherai à une chose qu'on n'a pas encore beaucoup faite jusqu'à présent, à montrer au moins deux choses. La première, c'est comment ce texte du décret sur les missions est déjà une première réception du concile par lui-même, parce qu'il cite un certain nombre de fois Lumen Gentium, vous allez voir, c'est d'ailleurs écrit sur votre feuille de route. Et puis d'autre part, comment ce thème de la mission ne se trouve pas seulement dans ce texte. Donc il y a un jeune théologien de l'époque qui avait publié juste après le concile un article fort intéressant sur ce que j'ai intitulé, comme lui au troisième point, la mission d'après les autres textes du concile. Ce jeune théologien est aujourd'hui pape glorieusement régnant. Il s'appelle Joseph, oui, quelque chose comme ça, hein, c'est ça. Alors, après ça, évidemment, j'aimerais bien aussi, on verra bien si le temps le permet, nouer les deux bouts, enfin, aller depuis le concile jusqu'à nos jours, toujours sur ce même thème de la mission, parce qu'il y a eu au moins deux textes importants depuis le concile sur le sujet, et pour finir, ouvrir la lucarne de l'avenir, si je puis dire, puisque l'année prochaine, au mois d'octobre, il y aura un synode, pour la première fois, sur la nouvelle évangélisation. C'est tout de même aussi un peu le thème du jour, hein. La mission, la nouvelle évangélisation. Et comment donc est-on passé de ce que le Concile appelait encore la mission ou les missions à ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle évangélisation? Ça sera une sorte de résumé un peu rapide aussi, je le crains, qui vous sera donné. Comme vous savez, vous pouvez entendre ces brillantes conférences sur le site de l'IET. Il y en a déjà 9, je crois, ou 7, enfin je ne sais pas combien, 7. Oui, on en a encore mis une aujourd'hui. Donc on est toujours à 2 séances de décalage, ainsi pour vous ou pour d'autres autour de vous, ça peut être utile de reprendre un peu les choses. Donc voilà, nous sommes devant un décret, pas une constitution, un décret, c'est un peu en dessous comme niveau d'autorité, un texte secondaire, donc ce qui ne veut pas dire un texte inutile, un décret promulgué la veille de la clôture du concile. Ce décret agentes, aux nations, aux missions, si vous voulez, chez les gens, hein, enfin, chez ceux qui ne sont pas encore des nôtres, si vous voulez, ce décret tire de l'Lumen Gentium tous ses principes. Et c'est pour ça qu'on va, d'une manière assez précise, s'intéresser au rapport de ce texte avec l'Lumen Gentium. Il cite d'ailleurs beaucoup la Constitution sur l'Église. J'ai compté 53 fois et j'ai mis dans la colonne, là, la deuxième colonne, à côté de la table des matières du décret, j'ai mis toutes ces citations de Lumen Gentium, comme je les ai repérées. Donc, au numéro, ça se lit comme ceci, au numéro 1 d'Agentes, on cite Lumen Gentium 48. Hein, c'est sur la première page. Au numéro 4, on cite Lumen Gentium 4, vous voyez ? Au numéro 9, Lumen Gentium 17, et ainsi de suite. Donc, on sent que derrière, il y a Lumen Gentium, 53 fois cité, et en fait, c'est le décalque de Lumen Gentium. On prend exactement le même mouvement, on part du dessein du Père, qui veut sauver le monde, et le dessein du Père, c'est d'envoyer son Fils, Agentes 2, Agentes 3, et d'envoyer aussi le Saint-Esprit, Agentes 4, qui, ensemble, le Fils et l'Esprit, envoient l'Église à toutes les nations, Agentes 5 et 6. Donc on croit vraiment réentendre les numéros 2 à 5 de Lumen Gentium. Mais on les entend du point de vue des conséquences ultimes de l'ecclésiologie de Lumen Gentium, du point de vue donc de la mission. L'Église, que Lumen Gentium disait sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain, de tout le genre humain, au numéro 1, eh bien Lumen Gentium disait cela. Ici, on dit qu'elle doit, en s'avançant par la porte étroite de la croix, étendre partout le règne du Christ Seigneur et préparer les voies à son avènement, c'est le numéro 1 de Agentes. Donc on récapitule toute l'ecclésiologie de Lumen Gentium sous l'angle de la mission. L'Église donc va être envoyée par Dieu aux païens parce qu'elle tire son origine de la mission du Fils et du Saint-Esprit selon le dessein universel de Dieu, je répète ce que je viens de dire. Et puis alors, pour ce décret-ci, les apôtres, puis l'ordre des évêques, avec à sa tête le successeur de Pierre, doivent accomplir cette tâche, c'est-à-dire apostoliquement centrée, avec la prière et la collaboration de toute l'Église, parce qu'on dira à un certain moment, c'est toute l'Église qui est missionnaire, en ce compris les instituts religieux auxquels je m'attacherai quand même un petit instant, au passage. Donc, je pars de la genèse de ce décret, que j'évoque rapidement. C'est un décret promulgué, je le répète, c'est écrit d'ailleurs le 7 décembre 1965. C'est de tous les décrets du Concile celui qui a reçu le moins d'opposition, pour ceux qui s'intéressent au nombre des voix là. Mais il arrive aussi au terme d'une histoire fort mouvementée, vous êtes bien habitués à entendre dire ça. Hein. Il y avait d'abord un texte A élaboré par la commission préparatoire qui s'intitulait De Missionibus, démission, et qui avait été confectionné sous la présidence du cardinal Agadjanian en 62. À ce texte A a succédé un texte B, c'est pas trop difficile, hein, un texte B qui lui avait été préparé par la commission conciliaire, mais qui a été refusé par la commission de coordination. Vous vous rappelez qu'on avait nommé une commission de coordination au-dessus de toutes les autres, il a refusé le texte de la commission conciliaire. Et donc, en 63, elle passe, si vous voulez, parce que ce texte n'a pas pu être présenté au Concile, la commission de coordination l'a bloqué. Il a donc fallu faire un texte C, qui alors a été extrêmement réduit. C'était l'époque de ce qu'on appelait le plan Dupfner. Le cardinal Dupfner avait proposé un plan qui restreignait complètement tous les textes à quelques propositions. En 64, eh bien, ce texte C va être amélioré et un peu gonflé quand même, avec les suggestions écrites des pères. On n'a toujours pas discuté le texte dans l'assemblée conciliaire. On est déjà ici en mai 64, mais c'est le 6 novembre 64, en pleine session, que le pape Paul VI a dû venir lui-même au concile, ce qui est extrêmement rare. Il ne venait que pour les séances générales, enfin de promulgation, etc., ou de commencement des conciles, il est venu, il a par sa présence influencé en quelque sorte, c'est vrai, le concile, pour qu'aboutisse la refonte de ce texte qui avait été alors fabriqué par une sous-commission menée par le père Scute, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est le texte E de mai 65. Ce texte a finalement été discuté pour la première fois, donc, dans la toute dernière session du Concile, entre le 7 et le 13 octobre. Il a été amendé, il a été voté très rapidement, donc, puisque octobre, hein, c'est presque la fin. Et c'est donc dans sa version F, si vous voulez, A, B, C, D, E, F, qu'il clôture avec d'autres le Concile Vatican II. C'est donc une sorte de complément indispensable à la constitution Lumen Gentium. Il constitue une sorte de relecture de Perfecte Caritatis, d'ailleurs, aussi, puisque, si vous vous rappelez de Perfecte Caritatis, le texte sur la vie religieuse, ce texte-là s'achevait aussi par un appel à la mission, universelle. Et au numéro 18 et 40, ici, dans le décret ad gentes, il y aura des affirmations très importantes pour la vie religieuse. C'est cela que je veux souligner au passage. Le paragraphe 18 et le paragraphe 40. Le paragraphe 18 contient une affirmation très neuve, souvent reprise par la suite, qui veut que la vie religieuse soit introduite dès les débuts de l'évangélisation. On commence l'évangélisation par instaurer la vie religieuse. Parce que, et le motif est très très profond, parce que la vie religieuse, écoutez, par la consécration intime faite à Dieu dans l'Église, manifeste avec éclat et fait comprendre la nature intime de la vocation chrétienne. Donc c'est une consécration intime, presque secrète, enfin très discrète, qui montre avec éclat ce qu'est la consécration, ce qu'est la vocation chrétienne. Donc, dans la vie religieuse, qu'est-ce qu'on fait d'autre que montrer ce que c'est la vraie vocation chrétienne, rien d'autre. Hein. Donc on est en train, le père Egamet qui commentait ce texte, trouvait qu'on avait là la meilleure affirmation du concile sur la vie religieuse. Le rapport entre la vocation religieuse et la vocation chrétienne. Alors, il y a une autre affirmation forte au numéro 40 à propos du devoir missionnaire des instituts de perfection, comme on a encore dit, des instituts religieux hein, de perfection à acquérir, bien sûr. Eh bien, on a dit que, quelle que soit la nature des instituts religieux, actifs ou contemplatifs, si vous voulez, plus contemplatifs aussi, quelle que soit leur nature, ils ont à se préoccuper de leur devoir missionnaire. Et en particulier, les instituts, qu'on appelait à l'époque de vie active, doivent se poser sincèrement devant Dieu quelques questions. Ne peuvent-ils étendre leur activité à gentes ? Parce que toujours rester là où il n'y a que des chrétiens, ça va bien, mais peut-être qu'il faut aller ailleurs. Ne peuvent-ils laisser à d'autres certains ministères ? Ne peuvent-ils entreprendre dans les missions une activité qui resterait fidèle à l'esprit de leur fondateur ? N'ont-ils pas à reconsidérer le degré d'engagement missionnaire de leurs membres ? Et même leur façon habituelle de témoigner de l'Évangile ? Voilà, des questions qui évidemment demeurent aujourd'hui posées aux instituts religieux encore 45 ans après le décret. Mais on sentait bien que, on voulait mettre tout le monde dans un mouvement missionnaire. Alors, parcourons maintenant ce décret. Vous avez sous les yeux la première feuille, celle qui vous donne la table des matières. Tous ceux qui commentent ce décret, même les plus critiques, comme ceux qui ont travaillé à cette très grande entreprise de l'histoire du Concile Vatican II en 5 volumes, c'est l'école de Bologne, comme on dit, hein, la sauce bolognaise, si vous voulez, hein, le concile à la sauce bolognaise, sous la direction de Giuseppe Alberigo, 5 volumes, très intéressant, souvent assez critique par rapport au centre, ça vient plutôt de la périphérie, si vous voulez. Bien, même pour eux, ce décret sur les missions représente une contribution extraordinaire du Concile. Ce décret a introduit et promu des réflexions toutes nouvelles sur la mission chrétienne. Et je suis assez prêt pour l'instant, dans mon deuxième point, l'étude du père Unnermann dans ce volume. L'ensemble du décret comporte donc sous sa forme définitive 6 chapitres, vous les voyez, hein, principes doctrinaux. Il y a un préambule d'abord, il y a aussi une conclusion à la fin, mais entre ce préambule et cette conclusion, il y a 6 chapitres. Principes doctrinaux, c'est toujours là que se trouvent les choses les plus importantes. Ce chapitre se rapporte très largement à l'Écriture sainte, souvent citée, aux pères de l'Église, très nombreux ici, et il contient aussi beaucoup de citations d'importants documents magistériels pontificaux sur les missions, parce que les papes ont beaucoup écrit sur les missions. Et ici, beaucoup de textes pontificaux sur les missions sont cités. En plus, comme je vous le disais, des citations nombreuses de Lumen Gentium. Il y a aussi des citations du décret sur l'écuménisme, parce que dans les missions, c'est souvent un lieu écuménique, les missions. Et comme je vous disais tout à l'heure, on assiste ici vraiment au commencement de la réception de Vatican II par lui-même, puisqu'il cite, il se cite lui-même. Hein. On cite Lumen Gentium dans Ad Gentes, c'est comme si le concile commençait déjà à se recevoir lui-même. Attention, aucun théologien ancien ou moderne n'est cité sauf Thomas d'Aquin, le père de l'Église, oui, mais pas les théologiens médiévaux ni même contemporains, une seule fois Thomas d'Aquin. Donc, si vous voulez, les pères de Vatican II ont eu recours ici au premier millénaire, de l'Église, pas au deuxième. Donc, ils ont eu recours à une époque où la mission de l'Église, à la différence du deuxième millénaire, n'était pas, disons, en accord avec l'expansion coloniale. Vous comprenez ? C'est un choix qu'ils ont fait. Alors, le principe est ici posé, dès le premier chapitre. L'Église est missionnaire par nature. C'est ce que dit le numéro 2. Elle est missionnaire par nature puisque le peuple de Dieu découle de la source d'amour dont procèdent le Fils et l'Esprit. La source d'amour dont procèdent le Fils et l'Esprit, c'est le Père, à l'origine de la création et de la rédemption, à travers l'économie du salut. Alors ici, les Pères parlent avec une certaine naïveté, une grande ingénuité, dit-on, des religions non chrétiennes, puisque pour eux, à travers ces religions non chrétiennes, Dieu conduit aussi au salut, peut conduire au salut, de diverses manières. Ces religions ont évidemment besoin d'illumination ou de guérison, comme dit le numéro 3. Mais enfin, il y a ce que c'est la fameuse doctrine de la préparation évangélique dans les religions, et aussi, comme on dira un peu plus loin, à deux reprises, les semences du Verbe sont déjà présentes dans les religions non chrétiennes. Alors, le numéro 4 dit que pour pouvoir exercer sa mission, l'Église a reçu l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas parler de mission sans parler d'Esprit Saint, ça c'est clair, puisque c'est lui qui va permettre de rassembler tous les peuples dispersés depuis Babel. C'est toujours l'idée qu'à Babel, tout était dispersé, et que maintenant, depuis la Pentecôte, depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte, commence le rassemblement de tous les peuples. Dans les numéros 5 et 6, on assiste alors à une sorte de condensation très caractéristique du catholicisme romain qui veut que l'envoi en mission de l'Église soit rapporté à Jésus, instituant les douze, oui, puis par la suite à la mission du Christ ressuscité, envoyant ses apôtres. On cite Jean 20 par exemple, alors que dans Jean 21, il n'y a pas question d'apôtres, il est question de disciples. Donc vous voyez, c'est ça que je dis, une condensation, parce qu'on remet tout sur les apôtres, comme on peut le faire, bien sûr. Mais enfin, c'est très caractéristique du catholicisme romain, et cette mission repose en fait d'abord sur le pape et le collège épiscopal, pour le texte d'Ad Gentes 6, en tout cas au paragraphe 1. Alors, il y a deux approches missiologiques différentes qui ont été ici mises ensemble. Parce que pour ceux qui connaîtraient un peu la missiologie, il y avait à l'époque deux écoles concurrentes, c'est toujours comme ça chez les théologiens, hein, au moins deux, et puis c'est le troisième qui rafle la mise, hein, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. C'est comme vous avez flamand ou allons germanophone. Voilà. Enfin, il y avait donc deux écoles. L'école de Münster en Allemagne, c'était plutôt l'idée que la mission, c'est l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la mission ? C'est annoncer l'Évangile. On cherche le salut des âmes par la mission que Dieu donne. Tandis que l'école de Louvain et des Jésuites, dont le père Charles par exemple, et l'école de Rome aussi, voyaient plutôt la mission, non pas comme d'abord annonce de l'Évangile, mais implantation de l'Église. Qu'est-ce que c'est la mission ? C'est d'implanter l'Église. Vous me direz, c'est la même chose. Ah ben non, réfléchis bien, c'est bien. C'est pas tout à fait pareil de dire que la mission, c'est d'annoncer l'Évangile, ou de dire que la mission, c'est de planter l'Église. Ça peut avoir des conséquences quand même en pratique. Tandis qu'ici, le texte conciliaire, comme il doit le faire, dit, au paragraphe 3 du numéro 6, dit que c'est annonce de l'Évangile et implantation de l'Église. Et on appelle communément mission les initiatives spéciales grâce auxquelles les messagers de l'Évangile, envoyés par l'Église, vont dans le monde entier et assument la tâche d'annoncer l'Évangile et d'implanter l'Église auprès des peuples et des groupes qui ne croient pas au Christ. Voilà, on met les choses ensemble. Alors, la fin du premier chapitre, numéro 7 et 8, est constituée par des réflexions sur le dessein du salut de Dieu qui agit chez tous les hommes, aussi bien que dans les religions et les cultures. Dieu agit partout. Mais il a tout orienté vers le Christ, dit le numéro 7, et on réfléchit aussi au numéro 8 sur la signification que l'activité missionnaire possède pour les aspirations humaines. La conclusion de ce chapitre 1 au numéro 9 inscrit la mission dans l'histoire du salut dans la mesure où la mission appartient au temps qui suit la première venue du Christ et est orientée vers sa deuxième venue. La mission, c'est dans l'entretemps, hein, c'est dans l'avant, si vous voulez. En attendant le retour du Christ, que fait l'Église et les missionnaires? Alors, les chapitres suivants, que je regarde encore plus rapidement, se rapportent au travail de la mission elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle ici, dans le titre, je ne sais plus comment, parce que j'ai perdu mes feuilles. Comment vous l'appelez ? Activité missionnaire, mais c'est une activité comme un travail. Hein. Et puis le chapitre 3, ça sera les églises particulières. Le chapitre 4, ça portera sur les missionnaires eux-mêmes. Le chapitre 5, sur la conduite du travail missionnaire. Et finalement, le chapitre 6, sur la collaboration de l'Église universelle en relation avec toujours ce thème de la mission. Revenons un instant au chapitre 2, en ce qui concerne le travail missionnaire. Il suppose comme base une participation avec les grands défis culturels et sociaux des peuples. Vous ne pouvez pas évangéliser ou implanter l'Église, si vous n'entrez pas dans les grands défis de la culture et de la société des peuples en question. C'est seulement, dit le texte, ensuite que l'annonce de l'Évangile et le rassemblement du peuple de Dieu peuvent pleinement débuter. On vient de parler, sans le dire le mot, d'inculturation, n'est-ce pas? On peut dire que dans ce chapitre 2, la vision théologique du premier chapitre, les grands principes que je vous ai dit, est traduite, au fond, au plan pratique, dans ce chapitre 2. Chapitre 3, c'est un chapitre qui est apparu au moment de la dernière révision. Il reflète en fait la nouvelle donne en Afrique et en Asie. On est au moment de la décolonisation, rappelez-vous, hein, entre 60 et 65. Les jeunes églises sont déjà nées, on ne doit plus les attendre, elles sont là. Et différents ministères leur reviennent déjà, d'après les vocations et les fonctions. Et notamment en ce qui concerne les laïcs. Le personnel missionnaire spécialisé jusque-là, qui était souvent les religieux, ici ça devient tout le monde, les laïcs. On demande expressément la formation d'une pensée théologique autonome à ces nouvelles chrétientés et des formes de vie dans ces chrétientés qui soient à la fois marquées par la foi, évidemment, mais aussi par les traditions culturelles des peuples nouveaux, évangélisés. Dans le chapitre 4, la conception qui jusqu'alors était très centrée sur l'Europe, européocentrique, la conception européocentrique du missionnaire, est considérée comme complètement dépassée. Plutôt ciel, hein, que ce fût vrai. Mais c'est comme ça, c'est mis au compte du passé. Les vocations missionnaires doivent surgir des jeunes églises et elles auront un profil de formation adapté. L'accent est mis ici sur les missionnaires laïcs qui prennent part au développement des peuples. Parce que mission et développement commencent maintenant aussi à se rejoindre. Le chapitre 5 s'en remet au synode des évêques, qui vient juste d'être décidé par Paul VI à l'époque. On s'en remet au synode des évêques pour guider, avec le pape, toute l'activité missionnaire de l'Église. Alors, c'est un peu curieux, parce que jusque-là, il y a un dicaster romain qui est chargé de ça, n'est-ce pas ? Qui s'appelle la propagande. En clair, on dit, numéro 29, vous regarderez, la congrégation des propaganda fidei, qu'on appelle maintenant pour l'évangélisation des peuples, mais après, avant on l'appelait la propagation de la foi, maintenant on l'appelle l'évangélisation des peuples, eh bien on dit en clair que cette congrégation devrait être un atelier pour le pape et le synode et rien d'autre. Et rien d'autre. Je cite, ce dicaster doit cependant, pour sa part, promouvoir la vocation et la spiritualité missionnaire, le zèle et la prière pour les missions, et fournir à ce sujet une information véridique et appropriée. Donc, quand un concile se permet de recommander à un dicaster romain de fournir une information véridique et appropriée, on peut même se dire que ce n'est pas toujours le cas. Vous entendez ? Il y en a qui ramassent quelque chose ici. Alors, pour la coopération, qui est partout nécessaire, on renvoie à l'évêque dans son diocèse. C'est l'évêque qui est au centre de ce réseau de coopération. On renvoie aux conférences épiscopales. On dira d'ailleurs que chaque évêque n'est pas seulement responsable de son diocèse, il est responsable avec les autres de la mission universelle. On renvoie aux instituts missionnaires, bien sûr, et de manière particulière, les institutions universitaires sont citées comme étant au service du travail missionnaire. On parle des universités catholiques ici, au service du travail missionnaire. Le chapitre 6 parle finalement de la coopération dans l'Église universelle. C'est la responsabilité de tous, qu'on soit dans un diocèse ou qu'on soit dans une communauté religieuse, etc. C'est dans une large mesure, note le texte d'ailleurs, c'est la grande responsabilité des laïcs, la mission. Vous ne croyez pas donc que le texte exonérerait les laïcs de la mission, c'est le contraire. Alors, et après avoir parcouru comme ça rapidement le texte, qu'il faut lire, je vous en ai mis de larges extraits, et d'ailleurs on vous a payé un retour vers Lumen Gentium, vous allez comprendre pourquoi. Je passe donc au troisième point, avec ce jeune théologien audacieux, n'est-ce pas, qui a étudié la mission dans tous les autres textes du Concile. Ça l'intéressait beaucoup, la mission. Le jeune Ratzinger, c'est de lui qu'on parle. Il avait travaillé au décret, pas rien qu'à celui-là, mais aussi à celui-là. Et je pense que c'est de ce moment-là qu'à un certain moment, Philips, vous vous rappelez de Philips, mon Philips, quoi, votre Philips, notre Philips, dit à une révision du texte, heureusement qu'il y a Ratzinger, parce que lui, au moins, il vérifie toutes les citations. Oui, c'est un travail de jeune théologien, vous avez fait la citation. Alors, voici ce qu'il dit, le jeune Ratzinger, juste après le concile. C'est dans la Constitution sur l'Église, donc Lumen Gentium, au numéro 13 à 17, que se trouve le texte central du concile sur la mission. Ce n'est pas dans le décret, c'est ici. Bon, c'est le numéro que je vous ai recopié en les abrégeant, évidemment. Mais je vous les mets sous les yeux. Là, dit-il, comme sur leur base de départ s'appuient tous les autres textes relatifs à la mission, y compris le décret sur l'activité missionnaire. Et il y a d'autres textes encore que ces deux-là. Alors, le point de départ au numéro 13 de Lumen Gentium, paragraphe 1, ce point de départ est trinitaire. Aux extrémités de l'histoire, c'est-à-dire au commencement et à la fin, sont posées au commencement la création, à la fin l'eschatologie. Entre les deux, la mission. En toutes deux extrémités s'exprime le thème de l'unité Et s'enracine, et lui-même, il s'enracine dans l'unicité divine. Donc, qu'est-ce que c'est la mission? C'est que l'unité du genre humain soit faite. Et pourquoi est-ce qu'il faut chercher l'unité du genre humain? Parce que Dieu est un. Un en trois personnes. Donc, la mission apparaît comme l'élan du peuple nouveau vers sa propre réalisation et la tâche par excellence de l'histoire du salut. La mission, c'est la tâche de l'histoire du salut. Alors, comment est-ce que ça se développe après ce point de départ? Le développement s'opère à partir du concept d'Église. C'est dans l'Église que ça se fait. Ça, c'est Lumen Gentium 13, au paragraphe 2, que je n'ai pas mis, mais vous irez voir. Parce que, aux images fondamentales de peuple, peuple de Dieu, de royaume du Christ, et de rassemblement, quand on cherche l'unité de tous les hommes entre eux, qui reviennent, s'ajoute dans ces numéros l'image du corps. Et puis, dans ces numéros, 13, toujours, le développement majestueux de Saint Irénée sur la récapitulation de toute l'humanité sous une seule tête, le Christ, c'est Saint Paul en fait. Hein. Voilà. Et c'est encore ici qu'on voit l'image de la cité sainte où tous les peuples apporteront leur présent, Épiphanie, hein. Jérusalem. Alors, le troisième paragraphe du numéro 13 explique ce qu'est la catholicité à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur, la catholicité à l'intérieur. Il y a trois aspects d'un pluralisme au sein de l'unité de l'Église. Unité et pluralisme ensemble, c'est ça la catholicité. L'Église se construit à partir de nombreux peuples de ce monde, d'états de vie différents. Heureusement que tout le monde n'a pas le même état de vie. Et puis, de nombreuses églises en tout lieu et région du monde. Donc, il y a dans l'Église de nombreux peuples, de nombreux états de vie et de nombreuses églises. Le dernier paragraphe du même numéro 13 fait, dit Ratzinger, la transition avec la question, c'est ici que je trouve ça intéressant, avec la question de l'incorporation à l'Église. Qui appartient à l'Église ? Alors, les hommes, ou bien appartiennent à l'unité catholique du peuple de Dieu, de diverses façons, je vais vous montrer, ou bien ils lui sont ordonnés, et cela de différentes façons. Regardez bien. Le numéro 14, j'en ai mis le début. Il expose les conditions requises pour être totalement incorporé à l'Église catholique. Regardez comme c'est écrit, j'ai souligné, les fidèles catholiques, c'est vers eux que le Saint-Concile tourne en premier lieu sa pensée, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église. Ceux qui, l'Esprit du Christ, son organisation, ses moyens de salut, profession de foi, sacrement, gouvernement, communion, unité visible, souverain pontife, évêque, ça fait beaucoup quand même, hein. Ceux qui tiennent tout ça, ils sont dedans, pleinement incorporés. Ça, c'est le numéro 14. Les fidèles catholiques, dit le titre. Ensuite, le numéro 15. Quels sont les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques? Regardez bien la formule. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le bon nom de chrétiens, sans professer pourtant tout ce qu'on a dit, pas tout, seulement une partie. Sans garder l'unité de la communion, l'Église se sait unie. C'est pas pareil de dire « sont incorporés pleinement dedans » ou bien « avec eux, on se sait unis ». Regardez maintenant le numéro 16. On précise la relation entre l'Église et les non-chrétiens. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile, eux aussi sont ordonnés. Ordonnés au peuple de Dieu. C'est-à-dire, ils sont orientés vers lui. Ils sont déjà mus comme un tâton par lui. Ils vont vers lui. Ils sont ordonnés. Et en premier lieu, toujours comme ça au concile, et en premier lieu, ce peuple qui a reçu les alliances et les promesses, les juifs, hein, et plus loin, le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur. En premier lieu, les musulmans. Donc, remarquez, hein, il y a ceux qui sont pleinement dedans, il y a ceux avec qui l'Église se sait unie, et puis il y a ce qui sont ordonnés au peuple de Dieu, d'abord les juifs et puis les musulmans, et puis plus loin tous ceux qui cherchent Dieu, hein. Et alors c'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler au numéro 17 du caractère missionnaire de l'Église. Est-ce que ça vaut encore la peine alors de parler de mission, puisque tout le monde d'une façon ou d'une autre se rapporte à l'Église, hein? C'est bien la question qui a été débattue pendant 20 ou 30 ans. Ça vaut même plus la peine de parler de mission, puisque tout le monde est ou dedans ou presque dedans, quoi. Ben non. Donc, on passe à l'article Lumen Gentium consacre spécialement à la mission. Le texte parle des bases positives de la mission, c'est-à-dire Saint Marc, Saint Matthieu, les actes à Corinthiens, qui sont relus à la lumière de Saint Jean. Donc, la ligne missionnaire de l'Église s'origine dans l'envoi du Fils par le Père. S'origine au dynamisme premier de l'amour trinitaire. D'où vient qu'il faut être missionnaire? Mais parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. À cette première idée qui est christologique, la Constitution ajoute une autre ligne de pensée qui est pneumatologique, l'Esprit Saint. Vous devez toujours parler à la fois du Christ et de l'Esprit quand vous parlez de mission. La mission est vue comme réalisation dans le monde et dans l'histoire, grâce à l'Esprit Saint, de la volonté salvifique de Dieu. Alors l'Église est instrument de l'Esprit Saint qui, du dedans, la presse de se mettre à sa disposition pour son œuvre. Ça, c'est la définition de la mission. Et à côté de cette définition, toujours au numéro 17, on voit fonder la missiologie et signaler quel est son but, quels sont ses représentants, quelle est la méthode de la mission. Le but, c'est que dans l'unique Église, les jeunes Églises soient pleinement constituées. Ce qui suppose qu'elles soient non seulement plantées, mais qu'elles soient bien développées, hein. Pas seulement planter la mission, l'Église, mais la laisser se développer. La méthode, c'est la prédication chrétienne, et qui doit amener tout le germe de bien dans les hommes et dans les cultures à être guéri, achevé, élevé pour la gloire de Dieu. La confusion du démon, parce que c'est un des rares textes du Concile où on parle du démon, quand on parle des missions, et le bonheur de l'homme. Alors, la charge de la mission, à qui revient-elle ? Aux laïcs et aux prêtres, dit le texte, même si c'est diversement. Le but dernier, en regard duquel tout ceci n'est que moyen, c'est la préparation de la liturgie cosmique, où l'univers deviendra un unique geste d'adoration. Donc le but de la mission, c'est pas la mission, le but de la mission, c'est la grande liturgie du monde entier qui rend grâce à Dieu, quoi. Alors, notre jeune théologien, qui est devenu vieux maintenant, mais disait qu'il y avait d'autres documents encore qu'on devrait parcourir si on voulait savoir au juste ce que dit le Concile de la mission. Le décret sur l'apostolat des laïcs, nous l'avons lu, où il est dit « La vocation chrétienne est par nature vocation à l'apostolat. » Numéro 2. Le décret que nous allons lire la semaine prochaine sur la vie et le ministère et la vie des prêtres, dont Ratzinger disait que c'est l'un des plus riches et les plus profonds du Concile. Contrairement à ce que disent tous les autres qui disent que ce truc ne vaut rien, lui, il dit l'un des plus riches et des plus profonds. Et puis, la déclaration sur les libertés religieuses qu'on a lue la semaine dernière, c'est la condition pour qu'il y ait mission, la liberté religieuse. C'est la condition pour que la mission soit chrétienne. Et puis, le décret sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes qu'on a lu avec le Père Choël, où il est écrit « La mission n'exclut pas le dialogue, elle l'exige. » Tous ces textes devraient être relus si on voulait avoir un peu le condensé de ce que dit le Concile sur la mission. Mais nous allons en rester là pour le moment. Donc je veux parler maintenant de ce qui s'est passé depuis. Depuis, il y a eu plusieurs choses. Déjà en 1975, Paul VI a fait une très grande encyclique, une exhortation suivant un synode, post-synodal donc, qui s'appelle Evangelii Nuntiandi. C'est un très beau texte, majeur, en tout cas pour la vie religieuse, très important, puisqu'on dit aux religieux, c'est vous qui êtes aux avant-postes de la mission. Vous n'avez personne d'autre, hein. de ne pas vous occuper de vos familles, de vos trucs, de votre boulot, etc. Non, vous êtes des voltigeurs du Saint-Esprit, hein. Enfin, ça c'est moi qui dis. Mais enfin, vous êtes aux avant-postes de la mission, vous êtes là les premiers. Très beau et grand texte. Mais ça c'était Paul VI. Il y a d'autres textes plus récents, comme celui de Jean-Paul II, encyclique cette fois-ci, qui s'intitule « Redemptoris Missio », la mission du Rédempteur. Ça, ça date du 7 décembre 1990. Si vous avez aimé les chiffres, vous voyez tout de suite que c'est 25 ans après Agentes. C'est pour fêter les 25 ans d'Agentes que Jean-Paul II a écrit son encyclique sur la mission. Parce que pendant 25 ans, à part Paul VI, on n'a plus quand même beaucoup entendu parler de la mission. Tout a explosé dans les colonies, etc. Donc, et puis il y a eu des mouvements du côté des jeunes prêtres, africains notamment, je vais vous en parler dans un instant, mais donc tout avait changé, et pendant un temps, on ne savait même plus s'il fallait encore parler de la mission. Bien, le pape Jean-Paul II l'a fait en 1990. Il voulait inviter l'Église à renouveler son engagement missionnaire, disait-il, dans le numéro 2. Et comment est-ce qu'elle pouvait le faire? En méditant sur le Saint-Esprit, qui rend toute l'Église missionnaire. Vous ne pouvez pas vous dire charismatique si vous ne pensez pas que l'Esprit-Saint vous rend missionnaire. Méditer sur le Saint-Esprit, c'est toujours être envoyé en mission. Et donc, il voulait aussi affirmer que l'action missionnaire, ça c'est son point de vue, n'en est qu'à ses débuts. Tout le monde disait, la mission c'est fini, c'est foutu, rien à faire. Lui disait, ça commence, 1990. Car, dit-il, il existe des territoires nouveaux, mais il existe aussi des mondes nouveaux, et des phénomènes sociaux nouveaux, des aires culturelles et des aréopages modernes. Aréopage, ça vous dit quelque chose? Saint Paul, hein, livre des Actes, chapitre 15, quand Saint Paul se trouve à Athènes et qu'il va discuter là sur l'aréopage avec les Grecs, philosophes, eh bien, Jean-Paul II disait, il y a des aréopages modernes de la mission. Et donc, il a énuméré 6 aréopages modernes. Tout le monde les connaît, je présume. Hein? Tout le monde a ça en tête. Enfin, je vais quand même vous les rappeler. Bon. Premièrement, disait-il, c'est au numéro 36, le monde de la communication. Nouvel aréopage de la mission. Ensuite, engagement pour la paix, le développement et la libération des peuples. Paix, développement, libération. Vous entendez l'écho de la théologie de la libération ici. Hein? Ensuite, les droits de l'homme et des minorités. Ça, c'est un aréopage de la mission. Des minorités. Puis, la promotion de la femme et de l'enfant. Un aréopage de la mission. Puis, la sauvegarde de la création. C'est écologiste, hein? Écologiste. Hein? Et, sixièmement, tout le vaste domaine de la culture, de la recherche scientifique et des rapports internationaux. Je vous demande un peu ce que ça vient faire, mais enfin c'est comme ça. Donc, je répète, la communication, la paix, le développement et la libération des peuples, les droits de l'homme et des minorités, la promotion de la femme et de l'enfant, la sauvegarde de la création et tout le domaine de la culture, de la recherche scientifique et des relations internationales. Tout quoi, hein, à peu près tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, là. Hein. Mais c'est une hiérarchisation aussi. Et en particulier, il disait qu'au sud de l'Europe, donc, et à l'est de l'Europe aussi, il s'agit d'incarner l'Évangile dans les cultures des peuples, non sans dialoguer avec les frères d'autres religions. Pas les frères chrétiens, les frères d'autres religions. Quelle que soit la vocation et la mission qu'on a reçue comme baptisée, aux membres du peuple de Dieu, Dieu prépare un printemps de l'Évangile. Vous avez entendu cette formule, hein? Dieu prépare un printemps de l'Évangile. Mais, disait Jean-Paul II, le véritable missionnaire, c'est le saint. C'est le saint, le vrai missionnaire. Il n'a pas dit qu'un missionnaire n'est pas d'abord un saint, hein? Ou d'office un saint. Saint Thérèse de Lisieux, par parenthèse, croyait que les missionnaires n'allaient pas au purgatoire. Hein? Tout de suite au paradis, les missionnaires, d'un coup. Et les docteurs de l'Église, hein? Je ferme la parenthèse. Donc, le vrai missionnaire, c'est le saint. Alors, Jean-Paul II concluait sa grande encyclique comme ceci. Écoutez, l'Église n'a jamais eu autant que maintenant l'occasion de faire parvenir l'Évangile par le témoignage et la parole à tous les hommes comme à tous les peuples. Je, c'est rare qu'un pape dise « je », mais il le disait. Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire qui deviendra un jour radieux et riche de fruits si tous les chrétiens, et en particulier les missionnaires et les jeunes églises, répondent avec générosité et sainteté aux appels et aux défis de notre temps. C'est dynamique, hein ? C'est dynamique, hein ? Jean-Paul II. Eh bien, au même moment, les choses se modifiaient, donc, en missiologie, si vous voulez, ou sur le terrain. Quelle missiologie aujourd'hui ? N'y a-t-il pas un nouveau paradigme de la mission ? Quand on veut vous dire que tout a changé, maintenant on vous dit qu'il y a un nouveau paradigme. Ça veut dire que vous changez de modèle, quoi. Vous n'avez plus le soleil et la lune, c'est tout à fait autre chose. Hein. Changement de paradigme. Hein. On est dans les étoiles, quoi. Voilà. La mission ne peut plus, disent les auteurs, comme Maurice Pivot par exemple, la mission ne peut plus se penser à partir d'un mouvement allant des vieilles églises de chrétienté vers les terres de mission, mais bien à partir d'échanges réciproques entre églises, échanges des dons. Hein. Les missionnaires qui apportaient l'Évangile ont fait place aux partenaires qui apprennent ensemble à accueillir la nouveauté de l'Évangile. Ce paradigme se transforme, s'approfondit. Ce paradigme s'élargit. Tout d'abord, parce que ce qu'on disait autrefois en termes de colonisation, on le dit aujourd'hui en termes de globalisation. Donc ça devient universel, hein, la mission. Et puis le paradigme s'approfondit. Puisque avant on parlait d'aller aux missions aux païens, à Gentes, mais maintenant on dit que toute l'Église est missionnaire, donc c'est très très approfondi. Donc on a l'impression que le but de tous ces documents, etc., a été atteint et que les Églises locales sont constituées, qu'elles se présentent comme ayant en elles, les moyens de salut à proposer aux hommes, et pourtant, c'est au moment où on dit qu'il n'y a plus rien à faire que la mission Ad Gentes est maintenant réaffirmée, dans une autre perspective que, dit-on, on pourrait récapituler comme suit. 1, 2, 1. La mission Ad Gentes, en nation, donc, est un envoi vers l'étranger, l'autre, pour aller entendre Dieu là où il n'est pas reconnu jusqu'à présent. Allez entendre Dieu, pas aller donner Dieu, allez entendre Dieu. C'est un voyage en des groupes humains où Dieu parle en des langues que nous n'avons pas encore apprises. C'est ce voyage qui exige du missionnaire la sortie de soi, de sa langue, de sa culture, de sa vision du monde, de sa manière de vivre, etc. Donc, envoie vers l'étranger. Deuxièmement, la mission Ad Gentes se concrétise aujourd'hui par le dialogue. Dialogue interne à la vie ecclésiale, dialogue externe, dialogue dans lequel se prépare le terrain d'accueil de l'Évangile. Il faut pouvoir dialoguer avec ceux qui ne sont pas des nôtres. C'est un autre nom de la mission aujourd'hui, le dialogue. Donc, voilà, et c'est ici que les instituts missionnaires reprennent leur place, n'est-ce pas ? Parce que les instituts missionnaires sont très internationalisés, et donc ils deviennent eux-mêmes des laboratoires d'expérience entre le Nord et le Sud, etc. Ils sont mis au service des églises locales, ils favorisent leurs échanges, etc. Bon. Alors, on aurait pu aussi réfléchir, disons-le, au rôle des femmes dans la mission, parce que le rôle des femmes est tout à fait prépondérant dans les missions, dans la mission ou dans les missions. Qui sait, demandait Elisabeth Dufour, qui sait que sur l'ensemble du monde, le potentiel sanitaire des femmes est 30 fois supérieur à celui des hommes, hein, les hôpitaux, hein, c'est les femmes ça. Pourquoi toutes sortes de faits qui font que les femmes sont toujours les plus actives dans la mission, pourquoi tous ces faits sont-ils actuellement si méconnus et si naturellement sous-estimé? La mission, c'est d'abord une affaire de femme. Je veux dire. Est-ce que, d'ailleurs, il n'en a pas toujours été ainsi? C'est pas seulement comme ça depuis le XVIe siècle. au synode de 1994 sur la vie consacrée, on a bien vu que dans toutes les situations difficiles, ce sont les femmes qui sont aux avant-postes. Situation de clandestinité dans les anciens pays communistes. Dans ces situations, les congrégations féminines ont été le prolongement du bras du prêtre. Et la coopération entre les religieux et les laïcs, avant d'être religieux et prêtre, de religieux et laïcs, a été capitale dans ces chrétientés humiliées. Dans les jeunes églises aussi, ce sont les religieuses qui se trouvent, comme les femmes d'ailleurs, derrière la scène du développement, mais qui attendent toujours un vrai partenariat avec les prêtres. Le deuxième synode pour l'Afrique, parce que j'évoque l'Afrique ici, vient de connaître son exhortation apostolique qui s'appelle Africa Monus, hein, la charge de l'Afrique, et qui vient d'être promulguée au Bénin par le même Joseph, hein, c'est ça ? 19 novembre, c'est pas vieux. Eh bien, c'est un texte qui souligne la place des femmes dans la mission. Donc, quand on parle mission, on devrait aussi parler un peu plus de femmes, je laisse. C'est une cause perdue quand même, hein, les femmes. Alors, et maintenant, je finis comme ça. Donc maintenant, je trouve qu'on pourrait encore lire, et je me suis appliquée à vous le recopier en partie, là, un texte encore plus récent, parce qu'il date du 2 février 2011, plus récent que les autres encycliques que j'ai citées. C'est le document de travail, enfin, j'ai été largement, hein, j'ai mis tout le numéro 6. C'est le document de travail du prochain synode de... l'année prochaine, donc, sur la nouvelle évangélisation entendue comme transmission de la foi. Transmission de la foi. Eh bien, ce numéro 6 que vous avez là, il ne parle plus de aéropage, je ne sais jamais s'il fallait dire aéropage, non, aéropage, il ne parle plus d'aéropage, il parle de scénario. Voilà, c'est changé, hein, c'est mieux, hein, c'est actualisé, là. Hein. Mais des scénarios de la mission. Et qu'est-ce qu'on voit alors? Regardez, j'ai souligné, hein. Quel est le tout premier scénario? La culture. C'était pas comme ça avant, hein. On disait quoi? Le premier aéropage, communication. Ici, culture. C'est la culture. Et la culture, il faut l'entendre comme une ambiance générale où Dieu semble absent. Donc, dans notre culture, Dieu semble absent, quand il ne fait pas l'objet d'une apostasie silencieuse, comme disait Jean-Paul II, hein, dans Ecclesia in Europa. Bon, voilà. Culture où Dieu semble absent. Deuxième scénario, les phénomènes sociaux. Tout ce qui est social. C'est pas CDH, hein, mais ça ressemble, quoi. Tout ce qui est social, enfin, je ne veux pas faire de la politique ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces phénomènes sociaux? Les migrations, la mondialisation. Donc, on ne parle plus comme Jean 23, par exemple, de solidarité, de subsidiarité, etc. On dit migration, mondialisation. Là, c'est un site, un scénario pour la mission. Ensuite, les moyens de communication sociale, quand même, ils sont toujours là, hein, mais ils ont reculé, ils arrivent en troisième lieu. Ils ont des potentialités immenses, et c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais vous lirez ça. Hein. Et puis, quatrième scénario, la scène économique, le monde de l'économie, on ne peut pas dire celui de la finance. Hein. Et c'est l'économie au sens où, entre le Nord et le Sud, on vit un véritable drame, puisque le Nord est toujours plus fort et le Sud toujours plus faible. Les flux d'argent qui descendent du Nord vers le Sud n'ont rien de commun avec les flux qui montent du Sud vers le Nord. Hein. Donc, le scénario de la scène économique. Et puis, la recherche, la montée d'un rang aussi, celle-là, hein, la recherche scientifique et technologique qui tend à affirmer de nouveaux cultes. C'est devenu une nouvelle religion, la science. Hein. Donc voilà, c'est un scénario pour la mission. Et puis le dernier scénario, qui fait son apparition ici, fini l'écologie, hein, fini la femme, l'enfant, la création, tout ça a disparu, vous voyez bien. Hein. La scène politique, avec deux nouveaux acteurs, et un scénario inédit et inconnu. Il y a une arrivée sur la scène mondiale de nouveaux acteurs, ce sont les pays émergents, hein, vous entendez bien. Et donc, c'est là, dit le texte, que les chrétiens doivent habiter. Il faut habiter ce monde-là, de la culture, des moyens de communication, de la société, de l'économie, de la recherche, de la politique. C'est dans ce monde qu'on habite pour transformer ces défis en lieu de témoignage et puis d'annonce de l'Évangile. Voilà. Il faut habiter les lieux de défis pour les transformer en lieu de témoignage et d'annonce. Eh bien, il me semble que dans ces linéamenta du prochain synode, dans ces documents préparatoires, tout le Concile Vatican II, sous l'angle de la mission, comme j'essaie de le retracer ce soir, tout le Concile Vatican II est totalement assumé. D'ailleurs, Agentes est cité une dizaine de fois dans les notes, vous verrez, et pourtant complètement réinterprété. Hein, parce qu'on sent bien, c'est pas le même vocabulaire, on parle plus de la même chose, en tout cas on n'en parle plus de la même façon. On aura l'occasion après la Noël de revenir sur cette opération qui consiste à recevoir le Concile et puis à l'interpréter, hein, ce qu'on appelle sa réception et son herméneutique. Mais auparavant, nous prendrons contact juste avant Noël avec l'immense constitution pastorale Gaudium et Spes, qui est vraiment le but du Concile, et la semaine prochaine avec le décret sur la mission et la vie des prêtres, qui apporte lui aussi son lot de surprises et de renouvellement. Merci.